Bonjour à tous, je m'appelle Lambert Chalet, je présenterai aujourd'hui l'émission B-Side consacrée aux Protest Songs. Rappelons tout d'abord le concept de l'émission, je vous présenterai des morceaux méconnus d'artistes connus. Et qu'est-ce qu'une Protest Song ? C'est une chanson dont les paroles sont engagées politiquement ou socialement, afin de dénoncer, pour la plupart, les travers de la société. Elles sont souvent associées à une envie immédiate de changement. Et je vais commencer par vous passer quelques extraits de certaines très connues. Bob Dylan, Blowing in the Wind.
How many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
The Cranberries, Zombie. Green Day, American Idiot. Nous allons commencer par notre première chanson, Scarborough Fair. Vous venez d'entendre la chanson Scarborough Fair du célèbre duo que vous aurez peut-être reconnu, Simon & Garfunkel. Sortie en 1966 dans l'album Parsley, Sage, Rosemary & Thyme, elle reprend une ballade nord-irlandaise de la fin du XVIIIe siècle. De nombreuses versions de cette chanson ont vu le jour au fil des années, à tel point que personne ne sait réellement quelle est la version originale. Le thème est assez simple. Souvent interprété en duo masculin-féminin, c'est un dialogue. L'homme demande à un messager d'aller trouver son ancienne compagne afin de lui fournir une liste de tâches impossibles à faire. Par exemple, coudre une chemise sans couture. Pour qu'il la reprenne à ses côtés. La femme, quant à elle moqueuse, fournit aussi une liste de tâches impossibles à réaliser en ajoutant que s'il réussit, elle lui fera sa chemise sans couture. J'ai entendu pour la première fois ce titre dans le film Le Lauréat, un film avec Dustin Hoffman qui raconte la romance entre un adolescent et une femme d'âge mûr. Ce film est, de mon point de vue, déjà grandiose, d'autant plus que la bande-son a été faite en partie par Simon & Garfunkel. Mrs. Robinson, par exemple, est l'une d'elles. Par ailleurs, la scène où l'on entend Scarborough faire est pour moi l'une des plus belles. C'est le tournant du film, mais je ne vous en dis pas plus et je vous laisse le découvrir ou le redécouvrir. La chanson s'appelle Scarborough Fair Canticle car elle réunit deux titres, Scarborough Fair donc, et The Side of a Hill, chanté par Paul Simon dans son premier disque solo, dont nous parlerons dans la deuxième partie. En mélangeant les paroles de ces deux chansons, le duo nous livre un plaidoyer sur la guerre du Vietnam. Le dernier couplet en parle clairement, et le voici. Les soufflets de la guerre s'embrasent en bataillons écarlates. Les généraux donnent aux soldats l'ordre de tuer et de se battre pour une raison qu'ils ont oubliée depuis longtemps. La chanson est sortie en 1966, année où la guerre du Vietnam connaît un tournant aux États-Unis. Le président Johnson avait déclaré en 1964 qu'il n'enverrait pas d'autres soldats dans ce conflit. Mais en dépit de ses promesses, en 1966, le gouvernement américain prend la décision d'augmenter le nombre de soldats présents au Vietnam. 431 000 hommes de plus d'ici l'année 1967. Le mouvement d'opposition à cette guerre atteint son apogée cette année-là. Les journaux, plutôt que sur le conflit en lui-même, commencent à mettre en évidence les horreurs qui en découlent, centrent leurs reportages sur les victimes humaines et lancent à la face du monde l'envers d'un conflit dont on ne voulait pas entendre parler. Le choc est énorme, de nombreuses photographies font le tour du monde et des mouvements de contestation voient le jour, mouvements formés pour la plupart d'étudiants. Le Free Speech Movement, par exemple. Je vous avais dit que deux titres formaient cette chanson, voici le second, The Side of a Hill. On the side of a hill, in a land called somewhere, a little boy lies asleep in the earth, while down in the valley a cruel war rages, and people forget what a child's life is worth. On the side of a hill, a little cloud weeps and waters the grave with its silent tears, while a soldier cleans and polishes a gun that ended a life at the age of 7 years. And the war rages on in a land called somewhere, and generals order to fight for a cause they've long ago forgotten, while a little cloud weeps on the side of a hill. Ce morceau est sorti sur le premier album solo, bien trop méconnu, de Paul Simon, The Paul Simon Songbook, sorti en 1965. Beaucoup de titres présents sur cet album seront repris lorsque Paul Simon s'associera à Art Garfunkel. Des morceaux comme The Sound of Silence sont joués en solo et en acoustique sur cet album. Paru en 1965, cet album est le tournant de la carrière de Paul Simon. À cette époque, il ne bénéficiait ni du succès ni de l'aura qu'il a de nos jours. Lors de sa tournée en Europe, qu'il entamait en 1964, il se produisait dans des bars ou des petites salles. Cet album est très tourné vers le folk. Passons maintenant à la chanson Strange Fruit de Billie Holiday. «
fallen trees bear strange fruit. Blood on the leaves and blood at the root. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. Gallant south, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for sun to rot, for the tree to drop. Here's a strange and bitter cry.
Nous sommes en 1939, l'abolition de l'esclavage a 101 ans et pourtant la ségrégation raciale est à son apogée. En 1896, la décision de la Cour suprême lors de l'arrêt Plessy versus Ferguson officialise la ségrégation raciale. En théorie, les Noirs et les Blancs seront séparés, mais selon le 14e amendement, qui garantit la citoyenneté à toute personne née aux États-Unis et l'égale protection à toute personne vivant sur les territoires américains, ils seront séparés mais égaux. Cette décision n'a pas été entendue de la même façon par tous les États, en particulier par ceux du sud des États-Unis, qui, encore de nos jours, restent très conservateurs et racistes. Ils profitent de cette décision pour relayer les personnes noires à des citoyens de seconde zone, les obligeant à travailler pour des blancs ou, de manière judiciaire, leur donnant des peines très tournées vers le colonialisme. Par exemple, travailler pendant un certain nombre d'années de manière gratuite pour les blancs. Le lynchage est monnaie courante et personne n'en semble choqué. Pour preuve, l'historien Howard Zinn déclare qu'entre 1889 et 1903, en moyenne par semaine, deux Noirs étaient tués, mutilés, pendus ou brûlés vifs. Galvanisé par le film Birth of a Nation, mélangeant bêtement la xénophobie et le patriotisme, ce film préconisait le lynchage et les démonstrations violentes, brûler des grandes croix dans les quartiers noirs par exemple. La chasse aux sorcières reprend de plus belle en 1915. Se sentant à l'abri et se pensant tout puissant, le Ku Klux Klan renaît de ses cendres. L'horreur est maintenant totale. Non content de tuer des personnes noires, ils photographient leurs exactions et en font même des cartes postales. Mais en 1930, c'est le lynchage de trop. Thomas Smith et Abraham Smith, deux noirs accusés d'avoir tué un homme et d'avoir violé sa compagne, sont roués de coups par une foule en colère. Puis ils sont pendus à un arbre, sans jugement et avec la participation des gardiens de la prison. Un photographe local a pris un cliché de deux hommes pendus et en a vendu des milliers de copies. Face à ces exactions, un poète juif américain, Abel Meeropol, plus connu sous le pseudonyme de Lewis Allan, décide d'écrire un poème, sorte de plaidoyer contre la ségrégation. Je vais vous en lire la traduction. Les arbres du sud portent un étrange fruit, du sang sur les feuilles et du sang en racines. Un corps noir qui se balance dans la brise du sud, un fruit étrange suspendu au peuplier. Scène pastorale du vaillant sud, les yeux révulsés, la bouche tordue, parfum de magnolia doux et frais, puis l'odeur soudaine de chair qui brûle. C'est un fruit que les corbeaux picorent, que la pluie fait pousser, que le vent assèche, que le soleil fait mourir, que les arbres font tomber. C'est là une étrange et amère récolte. Voilà la création de la chanson Strange Fruit. Billie Holiday, de son vrai nom Eleanora Fagan, est une chanteuse de blues et de jazz. Elle naît en 1915 dans une Amérique qui ne veut pas d'elle. Son père, un guitariste écumant les clubs, ne la reconnaît pas comme sa fille. Sa mère, aide-ménagère et cuisinière et qui se prostitue, ne s'en occupe pas. Après une jeunesse turbulente, elle décide de se lancer dans la chanson et se produit dans des salles d'anthologie, comme l'Apollo Theater. En 1939, la chanteuse se produit dans beaucoup de clubs, et en particulier le Café Society, qui est le premier club où la couleur de peau n'a pas d'importance, seul importe le talent. Lorsque le propriétaire du club, Barnes Josephson, entend parler de la chanson Strange Fruit, pour lui, il est clair que le premier live de cette chanson doit avoir lieu dans son établissement. Billy Holiday est toute désignée pour la chanter. À la fin de la première interprétation, on raconte qu'un silence de plomb régnait. Le public ne savait comment réagir devant cette voix, cette histoire. Doit-il applaudir, garder le silence afin de ne pas troubler cet instant? Une chose est sûre, ce moment restera dans la mémoire de tous ceux qui ont assisté. Mais cette chanson est jugée par tous trop engagée. Personne ne veut l'enregistrer, trop d'enjeux politiques. Seul un label accepte de l'enregistrer, le label Commodore. Et c'est au printemps 1939 qu'a lieu le premier enregistrement. Même si le succès est là, c'est un succès qui gêne. La commission de la Chambre sur les affaires anti-américaines veut savoir si le Parti communiste a financé cette chanson. Beaucoup de clubs ne veulent pas que Billie Holiday la chante, elle l'impose, mais dira que les serveurs font exprès de gêner pendant cette chanson. Strange Fruit a connu l'apogée de sa gloire 50 ans après son enregistrement, lorsqu'en 1990, Time Magazine en fait la plus grande chanson du XXe siècle. Et voici Ma France de Jean Ferrat.
De plaines en forêt, de vallons en collines, du printemps qui va naître à tes mortes saisons, de ce que j'ai vécu à ce que j'imagine, je n'en finirai pas d'écrire ta chanson, ma France. Au grand soleil d'été qui courbe la Provence, déjeuner de Bretagne aux bruyères d'Ardèche, quelque chose dans l'air a cette transparence et ce goût du bonheur qui rend ma lèvre sèche. Ma France, cette air de liberté au-delà des frontières, aux peuples étrangers qui donnaient le vertige et dont vous usurpez aujourd'hui le prestige, elle répond toujours du nom de Robespierre, ma France. Celle du vieil Hugo, tenant de son exil des enfants de 5 ans travaillant dans les mines, celle qui construisit de ses mains vos usines, celle dont Monsieur Thiers a dit la fusille, ma France. Picasso tient le monde au bout de sa palette, des lèvres d'Éluard s'envolent des colombes, ils n'en finissent pas, tes artistes prophètes, de dire qu'il est temps que le malheur succombe, ma France. Leurs voix se multiplient à n'en plus faire qu'une, celle qui pète toujours vos crimes, vos erreurs, en remplissant l'histoire et ses fosses communes, que je chante à jamais, celle des travailleurs, ma France. Celle qui ne possède en or que ses nuits blanches, pour la lutte obstinée de ce temps quotidien, du journal que l'on vend le matin d'un dimanche, à l'affiche qu'on colle au mur du lendemain, ma France. Qu'elle monte des mines, descende des collines, celle qui chante en moi, la belle, la rebelle. Elle tient l'avenir serré dans ses mains fines, celle de 36 à 68 chandelles, ma France.
Qui ne connaît pas Jean Ferrat? Au moins ses plus grands succès comme La Montagne ou Que serais-je sans toi. Chanteur français, engagé politiquement tout au long de sa vie, il naît en 1930. Il connaît l'horreur de la Seconde Guerre mondiale dans laquelle il perdra son père, juif déporté puis assassiné à Auschwitz. Caché par des militants communistes, à qui il doit la vie, c'est de cette époque qu'est née sa conscience politique. Il défendra le Parti communiste une partie de sa vie, mais n'hésitera pas à dénoncer ses travers. Dans cette chanson, il nous livre un parallèle entre une France ouvrière et cette République qui, selon lui, est sourde aux complaintes du peuple. Peuple qui, de 1936 à 1968, cherche à se libérer par tous les moyens. Dans les deux premiers couplets, il nous dépeint tout d'abord la France qu'il aime, au travers de paysages décrits ou qu'il nous laisse imaginer. Je cite « De plaines en forêt, de vallons en collines, ou ce grand soleil d'été qui courbe la Provence ». Dans les trois couplets suivants, il nous parle de personnalités qui, toujours selon lui, ont marqué l'histoire française, tout en gardant cet amour pour cette France des travailleurs. Il critique aussi ce que les dirigeants de l'époque ont fait de l'héritage qui leur a été donné, en parlant de la révolution de 1789. Le second couplet évoque l'époque de la Commune. Du 18 mars au 28 mai 1871, c'est un épisode d'insurrection et de résistance du peuple contre le gouvernement établi. Pour les communistes, c'est une figure d'espoir. Mais il s'est terminé de manière sanglante du 21 au 28 mai, une semaine que l'on nommera la semaine sanglante. Le gouvernement alors en place ordonne l'arrestation et l'exécution des insurgés. Pour Jean Ferrat, c'est encore une fois une France bafouée, tuée par des figures politiques bourgeoises. Il écrit « En remplissant l'histoire de ces fosses communes, que je chante à jamais celle des travailleurs, ou encore celle qui de ses mains construisit vos usines, celle dont Monsieur Thiers a dit qu'on la fusille ». Mais il n'oublie pas de parler des grandes figures de la littérature française, Victor Hugo par exemple, tout en rendant hommage à l'auteur et à son livre « Les Misérables ». Il n'oublie pas de rappeler que la France l'a condamné à l'exil. Éluard, Picasso, Victor Hugo, ils partent d'artistes prophètes qui ont défendu la liberté des peuples, mais aussi la paix lors de la Seconde Guerre mondiale. Pour Jean Ferrat, appartenir au Parti communiste veut dire défendre ses idées, mais aussi militer à son niveau. Du journal que l'on vend le matin d'un dimanche, à l'affiche qu'on colle au mur de lendemain, il évoque ici clairement le journal « L'Humanité dimanche ». Enfin, il n'oublie pas de parler de ce peuple français qu'il aime tant, celui qui se bat pour ses libertés et pour ses droits. C'est le 36 à 68 chandelles. 36 pour la grève générale de mai à juin 1936, qui débouchera sur les accords de Matignon du 7 juin 1936, qui statue sur l'avancée des conditions de travail des ouvriers. Pour la première fois dans l'histoire, syndicats et hommes politiques ont pu se rencontrer. La durée du temps de travail s'amenuise, la semaine des 40 heures, les salaires augmentent et les libertés d'appartenir à un syndicat apparaissent. De ces accords sont aussi nées les conventions collectives. 68 évoque évidemment mai 68 et son mouvement d'insurrection étudiant contre un mouvement jugé trop vétuste qui ne comprend pas ces baby-boomers. Et maintenant, comme ils disent, de Charles Aznavour.
J'habite seul avec maman dans un très vieil appartement, rue Sarrazade. J'ai pour me tenir compagnie une tortue de Canaries et une chatte pour laisser maman reposer. Très souvent, je fais le marché et la cuisine. Je range, je lave, j'essuie. À l'occasion, je pique aussi à la machine. Le travail ne me fait pas peur. Je suis un peu décorateur, un peu styliste. Mais mon vrai métier, c'est la nuit. Je l'exerce travesti. Je suis artiste. J'ai un numéro très spécial qui finit en nu intégral après striptease. Et dans la salle, je vois que les mâles n'en croient pas leurs yeux. Je suis un homo, comme ils disent. Vers les 3 heures du matin, on va manger entre copains de tous les sexes dans un quelconque bar tabac. Et là, on s'en donne à cœur joie et sans complexe. On déballe des vérités sur des gens qu'on a dans le nez. On les lapide, mais on le fait avec humour, enrobé dans des calembours, mouillé d'acide. On rencontre des attardés qui, pour épater leur tablé, marchent et ondulent. Saint-Jean, ce qu'il croit être nous, et se couvre les pauvres fous de ridicule. ville. Ça gesticule et parle fort, ça joue les divas, les ténors de la bêtise. Moi les lazis, les colibets me laissent froid, puisque c'est vrai, je suis un homme haut, comme ils disent. À l'heure où naît un jour nouveau, je rentre retrouver mon lot de solitude. J'ôte mes cils et mes cheveux comme un pauvre clown malheureux de lassitude. Je me couche mais ne dors pas, je pense à mes amours sans joie, si dérisoire. À ce garçon beau comme un dieu qui sans rien faire a mis le feu à ma mémoire. Ma bouche n'osera jamais lui avouer mon doux secret, mon tendre drame. Car l'objet de tous mes tourments passe le plus clair de son temps au lit des femmes. Nul n'a le droit en vérité de me blâmer, de me juger. Et je précise que c'est bien la nature qui est seule responsable si je suis un homme, comme il dit.
Les protestes songs ne servent pas qu'à dénoncer une guerre ou certaines politiques. Elles sont parfois là aussi pour défendre des phénomènes de société. C'est le cas pour cette chanson, se faisant messagère de l'homosexualité. 1972, l'époque est à la libération des mœurs, Woodstock a 3 ans, et Julien Clerc chante qu'il faut laisser entrer le soleil. C'est bar en public, certes, mais mieux vaut le faire lorsqu'on est hétérosexuel qu'homosexuel. En effet, c'est encore un sujet tabou. Pourtant, nous sommes encore loin des nuits fauves ou du premier cas de sida. Charles Aznavour, déjà censuré en 1965 à être choqué les bonnes mœurs, ne baisse pourtant pas les armes face à ses convictions. Et en cette année de 1972, il nous livre un véritable plaidoyer en faveur de l'homosexualité et du travestissement. C'est un véritable coup de tambour dans l'industrie de la musique qui, jusqu'ici, ne faisait que singer ou aborder avec humour ce sujet. Pourtant, de grandes figures artistiques sont homosexuelles. Andy Warhol, Yves Saint Laurent pour ne citer qu'eux. Tout au long de cette chanson, il décrit le quotidien morne de ces hommes de la nuit dont on ne veut pas parler. Hommes à tout faire chez eux et très seuls. Il écrit « À l'heure où naît un jour nouveau, je rentre retrouver mon lot de solitude. » Ils ne peuvent s'exprimer et s'épanouir que la nuit lors de, et je cite, « leur numéro très spécial. » Mais il évoque aussi la bêtise d'une société somme toute ancrée dans les préjugés, qui par peur de l'inconnu, se moque et singe plutôt qu'essayer de comprendre. Ici, il montre bien l'ostracisation des homosexuels. Les histoires à chagrin d'amour ne sont pas qu'une affaire d'hétérosexualité, et c'est bien pour ça qu'il l'aborde avec beaucoup de pudeur. La difficulté d'être homosexuel dans cette société réside aussi dans ses derniers couplets. Amoureux d'un homme, il dit que « sa bouche n'osera jamais lui avouer son doux secret, son tendre drame ». Il finit enfin par dire que « nul n'a le droit de le juger ni de le blâmer, et c'est bien la nature qui est seule responsable s'il est un homo comme ils disent ». Pourquoi n'oserait-il pas? Pourquoi précise-t-il que c'est la nature qui fait de lui un homosexuel? Évidemment parce que cela est encore mal vu et mal compris. Il s'inspire de son chauffeur, son secrétaire et son ami décorateur afin de nous livrer un témoignage poignant et ancré de réalité. Et cela réussit, on a l'impression de vivre la chanson et même de la voir. Charles Aznavour a, depuis toujours, défendu de grandes causes comme plus récemment lorsqu'il parle de la jungle de Calais. Et avec cette chanson, il ouvre les portes vers l'acceptation de l'homosexualité qui n'est pas contre nature, malgré les idées reçues. Une petite anecdote pour preuve de cette non-acceptation est la réaction du cercle d'amis homosexuels devant qui il l'a chanté pour la première fois. En effet, ceux-ci s'inquiètent de savoir qui va la chanter et surtout, s'il va bien préciser qu'il n'est pas homosexuel. Voilà, l'émission est finie, à vous les studios.